Chapitre 12. Les 100 jours à Paris. Effet du passage de la légitimité en France. Étonnement de Bonaparte. Il est obligé de capituler avec les idées qu'il avait cru étouffer. Son nouveau système. Trois énormes joueurs restés. Chimère des libéraux. Clubs et fédérés. Escamotage de la République, l'acte additionnel. Chambre des représentants convoquée. Inutile champ de mai. Je vous fais voir l'envers des événements que l'histoire ne montre pas. L'histoire n'étale que l'endroit. Les mémoires ont l'avantage de présenter l'un et l'autre côté du tissu. Sous ce rapport, ils peignent mieux l'humanité complète en exposant, comme les tragédies de Shakespeare, les scènes basses et hautes. Il y a partout une chaumière auprès d'un palais, un homme qui pleure auprès d'un homme qui rit, un chiffonnier qui porte sa hotte auprès d'un roi qui perd son trône. Que faisait à l'esclave présent à la bataille d'Arbel la chute de Darius? Gand n'était donc qu'un vestiaire derrière les coulisses du spectacle ouvert à Paris. Des personnages renommés restaient encore en Europe. J'avais, en 1800, commencé ma carrière avec Alexandre et Napoléon. Pourquoi n'avais-je pas suivi ces premiers acteurs, mes contemporains, sur le grand théâtre? Pourquoi seul à Gand? Parce que le ciel vous jette où il veut. Des petits 100 jours à Gand, passons aux grands 100 jours à Paris. Je vous ai dit les raisons qui auraient dû arrêter Bonaparte à l'île d'Elbe, et les raisons primantes, ou plutôt la nécessité tirée de sa nature, qui le contraignirent de sortir de l'exil. Mais la marche de Cannes à Paris épuisa ce qui lui restait du vieil homme. À Paris, le talisman fut brisé. Le peu d'instants que la légalité avait reparu avait suffi pour rendre impossible le rétablissement de l'arbitraire. Le despotisme muselle les masses et affranchit les individus dans une certaine limite. L'anarchie déchaîne les masses et asservit les indépendances individuelles. De là, le despotisme ressemble à la liberté quand il succède à l'anarchie. Il reste ce qu'il est véritablement quand il remplace la liberté. Libérateur après la constitution directoriale, Bonaparte était oppresseur après la charte. Il le sentait si bien qu'il se crut obligé d'aller plus loin que Louis XVIII et de retourner aux sources de la souveraineté nationale. Lui, qui avait foulé le peuple en maître, fut réduit à se refaire tribun du peuple, à courtiser la faveur des faubourgs, à parodier l'enfance révolutionnaire, à bégayer un vieux langage de liberté qui faisait grimacer ses lèvres et dont chaque syllabe mettait en colère son épée. Sa destinée comme puissance était en effet si bien accomplie qu'on ne reconnut plus le génie de Napoléon pendant les 100 jours. Ce génie était celui du succès et de l'ordre, non celui de la défaite et de la liberté. Or, il ne pouvait rien par la victoire qu'il avait trahie, rien pour l'ordre, puisqu'il existait sans lui. Dans son étonnement, il disait « Comme les Bourbons m'ont arrangé la France en quelques mois, il me faudra des années pour la refaire ». Ce n'était pas l'œuvre de la légitimité que le conquérant voyait. C'était l'œuvre de la charte. Il avait laissé la France muette et prosternée. Il la trouvait debout et parlante. Dans la naïveté de son esprit absolu, il prenait la liberté pour le désordre. Et pourtant Bonaparte est obligé de capituler avec les idées qu'il ne peut vaincre de prime abord. À défaut de popularité réelle, des ouvriers, payés à 40 sous par tête, viennent, à la fin de leur journée, brailler au carrousel « Vive l'empereur !» Cela s'appelait, aller à la crier. Des proclamations annoncent d'abord une merveille d'oubli et de pardon. Les individus sont déclarés libres, la nation libre, la presse libre. On ne veut que la paix, l'indépendance et le bonheur du peuple. Tout le système impérial est changé. L'âge d'or va renaître. Afin de rendre la pratique conforme à la théorie, on partage la France en 7 grandes divisions de police. Les 7 lieutenants sont investis des mêmes pouvoirs qu'avaient, sous le Consulat et l'Empire, les directeurs généraux. On sait ce que furent à Lyon, à Bordeaux, à Milan, à Florence, à Lisbonne, à Hambourg, à Amsterdam, ces protecteurs de la liberté individuelle. Au-dessus de ces lieutenants, Bonaparte élève, dans une hiérarchie de plus en plus favorable à la liberté, des commissaires extraordinaires, à la manière des représentants du peuple sous la Convention. La police que dirige Fouché apprend au monde, par des proclamations solennelles, qu'elle ne va plus servir qu'à répandre la philosophie, qu'elle n'agira plus que d'après des principes de vertu. Bonaparte rétablit par un décret la garde nationale du royaume, dont le nom seul lui donnait jadis des vertiges. Il se voit forcé d'annuler le divorce prononcé sous l'Empire entre le despotisme et la démagogie, et de favoriser leur nouvelle alliance. De cet hymen doit naître, au Champ de Mai, une liberté, le bonnet rouge et le turban sur la tête, le sabre du mamelouk à la ceinture et la hache révolutionnaire à la main, liberté entourée des ombres de ces milliers de victimes sacrifiées sur les échafauds ou dans les campagnes brûlantes de l'Espagne et les déserts glacés de la Russie. Avant le succès, les mamelouks sont jacobins. Après le succès, les jacobins deviendront mamelouks. Sparte est pour l'instant du danger, Constantinople pour celui du triomphe. Bonaparte aurait bien voulu ressaisir à lui seul l'autorité, mais cela ne lui était pas possible. Il trouvait des hommes disposés à la lui disputer. D'abord les républicains de bonne foi, délivrés des chaînes du despotisme et des lois de la monarchie, désiraient garder une indépendance qui n'est peut-être qu'une noble erreur. Ensuite, les furieux de l'ancienne faction de la Montagne, ces derniers, humiliés de n'avoir été sous l'Empire que les espions de police d'un despote, semblaient résolus à reprendre, pour leur propre compte, cette liberté de tout faire dont ils avaient cédé pendant 15 années le privilège à un maître. Mais ni les républicains, ni les révolutionnaires, ni les satellites de Bonaparte n'étaient assez forts pour établir leur puissance séparée, ou pour se subjuguer mutuellement. Menacés au dehors d'une invasion, poursuivis au dedans par l'opinion publique, ils comprirent que s'ils se divisaient, ils étaient perdus. Afin d'échapper au danger, ils ajournèrent leurs querelles. Les uns apportaient à la défense commune leurs systèmes et leurs chimères, les autres leur terreur et leur perversité. Nul n'était de bonne foi dans ce pacte. Chacun, la crise passée, se promettait de le tourner à son profit. Tous cherchaient d'avance à s'assurer les résultats de la victoire. Dans cet effrayant 31, 3 énormes joueurs tenaient la banque tour à tour. La liberté, l'anarchie, le despotisme, tous 3 trichant et s'efforçant de gagner une partie perdue pour tous. Plein de cette pensée, il ne sévissait point contre quelques enfants perdus qui pressaient les mesures révolutionnaires. Des fédérés s'étaient formés dans les faubourgs et des fédérations s'organisaient sous de rigoureux serments dans la Bretagne, l'Anjou, le Lyonnais et la Bourgogne. On entendait chanter la Marseillaise et la Carmagnole. Un club établi à Paris correspondait avec d'autres clubs dans les provinces. on annonçait la résurrection du journal des patriotes. Mais de ce côté-là, quelle confiance pouvait inspirer les ressuscités de 1793 ? Ne savait-on pas comment ils expliquaient la liberté, l'égalité, les droits de l'homme ? Étaient-ils plus moraux, plus sages, plus sincères, après qu'avant leurs énormités ? Est-ce parce qu'ils s'étaient souillés de tous les vices qu'ils étaient devenus capables de toutes les vertus ? On n'abdique pas le crime aussi facilement qu'une couronne. Le front que ceignit l'affreux bandeau en conserve des marques ineffaçables. L'idée de faire descendre un ambitieux de génie du rang d'empereur à la condition de généralissime ou de président de la République était une chimère. Le bonnet rouge dont on chargeait la tête de ses bustes pendant les 100 jours n'aurait annoncé à Bonaparte que la reprise du diadème, s'il était donné à ces athlètes qui parcourent le monde de fournir 2 fois la même carrière. Toutefois, des libéraux de choix se promettaient la victoire. Des hommes fourvoyés, comme Benjamin Constant, des niais, comme M. Simonde Sismondi, parlaient de placer le prince de Canino au ministère de l'Intérieur. Le lieutenant général comte Carnot au ministère de la guerre, le comte Merlin à celui de la justice. En apparence abattu, Bonaparte ne s'opposait point à des mouvements démocratiques qui, en dernier résultat, fournissaient des conscrits à son armée. Il se laissait attaquer dans des pamphlets. Des caricatures lui répétaient « Île d'Elbe », comme les perroquets criaient à Louis XI « Péronne ». On prêchait à l'échappée de prison, en le tutoyant, la liberté et l'égalité. Il écoutait ses remontrances d'un air de componction. Tout à coup, rompant les liens dont on avait prétendu l'envelopper, il proclame de sa propre autorité, non une constitution plébéienne, mais une constitution aristocratique, un acte additionnel aux constitutions de l'Empire. La République rêvée se change par cet adroit escamotage dans le vieux gouvernement impérial, rajeuni de féodalité. L'acte additionnel enlève à Bonaparte le parti républicain et fait des mécontents dans presque tous les autres partis. La licence règne à Paris, l'anarchie dans les provinces. Les autorités civiles et militaires se combattent. Ici, on menace de brûler les châteaux et d'égorger les prêtres. Là, on arbore le drapeau blanc et on crie « Vive le roi !» Attaqué, Bonaparte recule. Il retire à ses commissaires extraordinaires la nomination des maires des communes et rend cette nomination au peuple. Effrayé de la multiplicité des votes négatifs contre l'acte additionnel, il abandonne sa dictature de fait et convoque la Chambre des représentants, en vertu de cet acte qui n'est point encore accepté. Errant d'écueil en écueil, à peine délivré d'un danger, il le heurte contre un autre. Souverain d'un jour, comment instituer une pairie héréditaire que l'esprit d'égalité repousse ? Comment gouverner les 2 chambres ? Montreront-elles une obéissance passive ? Quels seront les rapports de ces chambres avec l'assemblée projetée du Champ de Mai, laquelle n'a plus de véritable but, puisque l'acte additionnel est mis à exécution avant que les suffrages eussent été comptés? Cette assemblée, composée de 30 000 électeurs, ne se croira-t-elle pas la représentation nationale? Ce Champ de Mai, si pompeusement annoncé et célébré le 1er juin, se résout en un simple défilé de troupes et une distribution de drapeaux devant un autel méprisé. Napoléon, entouré de ses frères, des dignitaires de l'État, des maréchaux, des corps civils et judiciaires, proclame la souveraineté du peuple à laquelle il ne croyait pas. Les citoyens s'étaient imaginés qu'ils fabriqueraient eux-mêmes une constitution dans ce jour solennel. les paisibles bourgeois s'attendaient qu'on y déclarerait l'abdication de Napoléon en faveur de son fils. Abdication manigancée à Bâle, entre les agents de Fouché et du prince Metternich. Il n'y eut rien qu'une ridicule attrape politique. L'acte additionnel se présentait au reste comme un hommage à la légitimité. À quelques différences près, et surtout moins l'abolition de la confiscation. C'était la charte. Chapitre 13. Suite des 100 jours à Paris. Soucis et amertume de Bonaparte. Ces changements subis, cette confusion de toutes choses, annonçaient l'agonie du despotisme. La tyrannie conservait l'instinct du mal et n'en avait plus la puissance. Toutefois, l'empereur ne peut recevoir du dedans l'atteinte mortelle, car le pouvoir qui le combat est aussi exténué que lui. Le titan révolutionnaire, que Napoléon avait jadis terrassé, n'a point recouvré son énergie native. Les deux géants se portent maintenant d'inutiles coups. Ce n'est plus que la lutte de deux ombres. À ces impossibilités générales se joignent pour Bonaparte des tribulations domestiques et des soucis de palais. Il annonçait à la France le retour de l'impératrice et du roi de Rome, et l'une et l'autre ne revenaient point. Il disait à propos de la reine de Hollande, devenue par Louis XVIII duchesse de Saint-Leu, « Quand on a accepté les prospérités d'une famille, il faut en embrasser les adversités. » Joseph, accouru de la Suisse, ne lui demandait que de l'argent. Lucien l'inquiétait par ses liaisons libérales. Murat, d'abord conjuré contre son beau-frère, s'était trop hâté, en revenant à lui, d'attaquer les Autrichiens. Dépouillé du royaume de Naples et fugitif de mauvais augure, il attendait aux arrêts, près de Marseille, la catastrophe que je vous raconterai plus tard. Et puis l'empereur pouvait-il se fier à ses anciens partisans et ses prétendus amis? Ne l'avait-il pas indignement abandonné au moment de sa chute? Ce Sénat, qui rampait à ses pieds, maintenant blotti dans la pairie, n'avait-il pas décrété la déchéance de son bienfaiteur? Pouvait-il les croire, ces hommes, lorsqu'ils venaient lui dire « L'intérêt de la France est inséparable du vôtre. Si la fortune trompait vos efforts, des revers, sire, n'affaibliraient pas notre persévérance et redoubleraient notre attachement pour vous. » Votre persévérance, votre attachement redoublé par l'infortune. Vous disiez ceci le 11 juin 1815. Qu'aviez-vous dit le 2 avril 1814? Que direz-vous quelques semaines après, le 19 juillet 1815? Le ministre de la police impériale, ainsi que vous l'avez vu, correspondait avec Gand, Vienne et Bâle. Les maréchaux, auxquels Bonaparte était contraint de donner le commandement de ses soldats, avaient naguère prêté serment à Louis XVIII. Ils avaient fait contre lui, Bonaparte, les proclamations les plus violentes. Entre parenthèses, voyez plus haut celle du maréchal Soult, note de l'auteur. Depuis ce moment, il est vrai, ils avaient réépousé leur sultan. Mais s'il eût été arrêté à Grenoble, qu'en aurait-il fait? Suffit-il de rompre un serment pour rendre à un autre serment violé toute sa force? Deux parjures équivalent-ils à la fidélité? Encore quelques jours, et ces jureurs du Champ de Mai rapporteront leur dévouement à Louis XVIII dans les salons des Tuileries. Ils s'approcheront de la sainte table du Dieu de paix pour se faire nommer ministre au banquet de la guerre, héros d'armes et brandisseurs des insignes royaux au sacre de Bonaparte, ils rempliront les mêmes fonctions au sacre de Charles X. Puis, commissaires d'un autre pouvoir, ils mèneront ce roi prisonnier à Cherbourg, trouvant à peine un petit coin libre dans leur conscience pour y accrocher la plaque de leur nouveau serment. il est dur de naître aux époques d'improbité, dans ces jours où deux hommes causant ensemble s'étudient à retrancher des mots de la langue de peur de s'offenser et de se faire rougir mutuellement. Ceux qui n'avaient pu s'attacher à Napoléon par sa gloire, qui n'avaient pu tenir par la reconnaissance au bienfaiteur duquel ils avaient reçu leurs richesses, leurs honneurs et jusqu'à leur nom, s'immoleraient-ils maintenant à ces indigentes espérances? S'enchaîneraient-ils à une fortune précaire et recommençante? Les ingrats que ne fixa point une fortune consolidée par des succès inouïs et par une possession de 16 années de victoire? Tant de chrysalides qui, entre deux printemps, avaient dépouillé et revêtu, quitté et repris la peau du légitimiste et du révolutionnaire, du napoléonien et du bourboniste. Tant de paroles données et faussées, tant de croix passées de la poitrine du chevalier à la queue du cheval et de la queue du cheval à la poitrine du chevalier. Tant de preux changeant de bandière et semant la lisse de leurs gages de foi mentie. Tant de nobles dames, tour à tour suivantes de Marie-Louise et de Marie-Caroline, ne devaient laisser au fond de l'âme de Napoléon que défiance, horreur et mépris. Ce grand homme vieilli était seul, au milieu de tous ces traîtres hommes, et sort, sur une terre chancelante, sous un ciel ennemi, en face de sa destinée accomplie et du jugement de Dieu. Chapitre 14. Résolution à Vienne, mouvement à Paris. Napoléon n'avait trouvé de fidèles que les fantômes de sa gloire passée. Ils l'escortèrent, ainsi que je vous l'ai dit, du lieu de son débarquement jusqu'à la capitale de la France. Mais les aigles, qui avaient volé de clocher en clocher, de Cannes à Paris, s'abattirent, fatigués, sur les cheminées des Tuileries, sans pouvoir aller plus loin. Napoléon ne se précipite point, avec les populations émues, sur la Belgique, avant qu'une armée anglo-prussienne s'y fût rassemblée. Il s'arrête. Il essaie de négocier avec l'Europe et de maintenir humblement les traités de la légitimité. Le congrès de Vienne oppose à M. le duc de Vicence l'abdication du 11 avril 1814. Par cette abdication, Bonaparte reconnaissait qu'il était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, et en conséquence renonçait pour lui et ses héritiers au trône de France et d'Italie. Or, puisqu'il vient rétablir son pouvoir, il viole manifestement le traité de Paris et se replace dans la situation politique antérieure au 31 mars 1814. Donc, c'est lui, Bonaparte, qui déclare la guerre à l'Europe, et non l'Europe à Bonaparte. Ces arguties logiques de procureur diplomate, comme je l'ai fait remarquer à propos de la lettre de M. de Talleyrand, valaient ce qu'elles pouvaient avant le combat. La nouvelle du débarquement de Bonaparte à Cannes était arrivée à Vienne le 3 mars, au milieu d'une fête où l'on représentait l'assemblée des divinités de l'Olympe et du Parnasse. Alexandre venait de recevoir le projet d'alliance entre la France, l'Autriche et l'Angleterre. Il hésita un moment entre les deux nouvelles, puis il dit « Il ne s'agit pas de moi, mais du salut du monde ». Et une estafette porte à Saint-Pétersbourg l'ordre de faire partir la garde. Les armées qui se retiraient s'arrêtent. Leur longue ligne fait volte-face et 800 000 ennemis tournent le visage vers la France. Bonaparte se prépare à la guerre. Il est attendu à de nouveaux champs cataloniques. Dieu l'a ajourné à la bataille qui doit mettre fin au règne des batailles. Il avait suffi de la chaleur des ailes de la renommée de Marengo et d'Austerlitz pour faire éclore des armées dans cette France qui n'est qu'un grand nid de soldats. Bonaparte avait rendu à ses légions leur surnom d'invincible, de terrible, d'incomparable. Cette armée reprenait le titre d'armée des Pyrénées, des Alpes, du Jura, de la Moselle, du Rhin, grand souvenir qui servait de cadre à des troupes supposées, à des triomphes en espérance. Une armée véritable était réunie à Paris et à Laon. 150 batteries attelées, 10 000 soldats d'élite entrés dans la garde. 18 000 marins illustrés à Lutzen et à Bautzen. 30 000 vétérans, officiers et sous-officiers, en garnison dans les places fortes. 7 départements du Nord et de l'Est prêts à se lever en masse. 180 000 hommes de la garde nationale rendus mobiles. Des corps francs dans la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Des fédérés offrant leurs piques et leurs bras. Paris fabriquant par jour 3 000 fusils. Telles étaient les ressources de l'empereur. Peut-être aurait-il encore une fois bouleversé le monde s'il avait pu se résoudre, en affranchissant la patrie, à appeler les nations étrangères à l'indépendance. Le moment était propice. Les rois, qui promirent à leurs sujets des gouvernements constitutionnels, venaient de manquer honteusement à leurs paroles. Mais la liberté était antipathique à Napoléon, depuis qu'il avait bu à la coupe du pouvoir. Il aimait mieux être vaincu avec des soldats que de vaincre avec des peuples. Les corps qu'il poussa successivement vers les Pays-Bas se montaient à 70 000 hommes. Chapitre 15. Ce que nous faisions à Gand, Monsieur de Blacas. Nous autres émigrés, nous étions dans la ville de Charles Quint, comme les femmes de cette ville. Assises derrière leurs fenêtres, elles voient dans un petit miroir incliné les soldats passer dans la rue. Louis XVIII était là dans un coin complètement oublié. À peine recevait-il de temps en temps un billet du prince de Talleyrand revenant de Vienne, quelques lignes des membres du corps diplomatique résidant auprès du duc de Wellington en qualité de commissaire, messieurs Pozzo di Borgo, de Vincent, etc. etc. On avait bien autre chose à faire qu'à songer à nous. Un homme étranger à la politique n'aurait jamais cru qu'un impotent caché au bord de la Lys serait rejeté sur le trône par le choc des milliers de soldats prêts à s'égorger. Soldats dont il n'était ni le roi ni le général, qui ne pensait pas à lui, qui ne connaissait ni son nom ni son existence. De deux points si rapprochés, Gand et Waterloo, jamais l'un ne parut si obscur, l'autre si éclatant. La légitimité gisait au dépôt, comme un vieux fourgon brisé. Nous savions que les troupes de Bonaparte s'approchaient. Nous n'avions pour nous couvrir que nos deux petites compagnies, sous les ordres du duc de Berry, prince dont le sang ne pouvait nous servir, car il était déjà demandé ailleurs. 1 000 chevaux détachés de l'armée française nous auraient enlevés en quelques heures. Les fortifications de Gand étaient démolies. L'enceinte qui reste eût été d'autant plus facilement forcée que la population belge ne nous était pas favorable. La scène dont j'avais été témoin aux Tuileries se renouvela. On préparait secrètement les voitures de Sa Majesté. Les chevaux étaient commandés. Nous, fidèles ministres, nous aurions pataugé derrière. À la grâce de Dieu. Monsieur partit pour Bruxelles, chargé de surveiller de plus près les mouvements. Monsieur de Blacas était devenu soucieux et triste. Moi, pauvre homme, je le solaciais, entre parenthèses, consolé, soulagé. À Vienne, on ne lui était pas favorable. Monsieur de Talleyrand s'en moquait. Les royalistes l'accusaient d'être la cause du retour de Bonaparte. Ainsi, dans l'une ou l'autre chance, plus d'exil honoré pour lui en Angleterre, plus de première place possible en France, j'étais son unique appui. je le rencontrais assez souvent au marché aux chevaux, où il trottait, seul. M'attelant à son côté, je me conformais à sa triste pensée. Cet homme que j'ai défendu à Gand et en Angleterre, que je défendis en France après les Cent Jours, et jusque dans la préface de la Monarchie selon la Charte, cet homme m'a toujours été contraire. Cela ne serait rien s'il n'eût été un mal pour la monarchie. Je ne me repens pas de ma niaiserie passée. Mais je dois redresser dans ses mémoires les surprises faites à mon jugement ou à mon bon cœur.